Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Bonjour, Nadia Boumefta.
Bonjour.
Avocate en droit criminel et qu'on rejoint dans le nord du Québec. Vous êtes à quel endroit en ce moment, Nada?
À Coudjouac, pour un terme, dans le nord, auprès de la communauté Inuit.
Ah oui. Vous passez combien de temps, là, quand vous êtes dans le nord, comme ça?
Normalement, c'est une semaine. Le terme dure du lundi au vendredi, puis on est à la cour là-bas avec juge, greffière et équipe du nord, qu'on appelle un peu la cour itinérante. Et à chaque mois à peu près, ben, on passe pour passer les dossiers en cours du village.
Quel genre de dossier, là, vous,
de
vous
tout,
plaidez?
Vraiment, il y a de tout, mais plus spécifiquement, là, en DPJ, protection de la jeunesse, j'ai la chance de pouvoir présenter des enfants et des parents des communautés autochtones. Puis on plaide, on représente leurs intérêts là, devant la cour dans le Nord pendant une semaine. Il y a également des causes criminelles qui peuvent se tenir comme ça à la cour itinérante.
Okay.
Mais les semaines où moi je monte, c'est vraiment en protection de la jeunesse.
J'ai une question un peu curieuse. Est-ce que vous voyagez tout le monde ensemble, tout le monde de la cour, quand on dit que c'est une cour itinérante?
Mm-hmm. En fait, il y a deux équipes. Là. Certaines viennent d'Amos, d'autres viennent de Montréal. Mais certains juges voyagent avec nous. Oui, on peut se retrouver dans le même petit avion pour voyager dans le Nord. Et parfois, oui, on peut se retrouver à deux, trois sièges du juge qui sera avec nous. Mais on garde souvent le tout professionnel, évidemment, et avec respect.
Ça doit être interdit. Ça doit être interdit,
oui,
ben, de discuter des causes,
absolument,
hein?
Absolument. Et même, c'est à tel point interdit que même nos clients eux-mêmes ne peuvent pas en parler, par exemple, sur les réseaux sociaux ou les choses comme ça. À défaut pouvoir avoir des conséquences devant la cour. Donc non, on n'en parle pas, même entre nous. Quand on est dans un avion entouré d'autres personnes, la confidentialité est très importante.
C'est très particulier comme situation pour une avocate, j'imagine. Ça arrive,
oui,
pas à tous les avocats là, de se promener avec le
non,
juge
pas du tout. C'est pas du tout. C'est une expérience qui est assez particulière, effectivement. Et surtout quand on voyage là-bas physiquement, qu'on est à la coopérative. Ou le centre d'hébergement, finalement, qui est au village. Et oui, qu'on partage, finalement, les lieux avec d'autres collègues en défense ou parfois même, effectivement, même la cour, le juge. Mais comme je disais, si on va là-bas pour vraiment faire notre travail, évidemment. Donc, on est pas mal concentré du matin au soir là-dessus. Et parfois, on peut même finir la cour très, très tard, à des heures passées, disons, l'heure du souper.
Oui.
Mais on lâche pas, on le fait. Puis c'est toujours, évidemment, en ayant en tête que ces enfants-là, ben, ont droit d'être, de savoir qu'est-ce qu'on fait d'eux, où est-ce qu'ils vont et comment est-ce que leur développement peut être assuré et que ce ne soit pas pour des raisons de délai de cours que ce soit allongé, par exemple. Alors, c'est pourquoi... Quand on commence, on termine et on essaie de couvrir l'entièreté, finalement, des dossiers.
Je m'excuse, j'avais pas prévenu que je parlerais de ça, mais ça m'intéresse.
C'est intéressant, oui, c'est
ben
clair.
Oui, c'est fascinant. Nada, dites-moi, est-ce que la COVID a dû nuire infiniment à ce tribunal itinérant-là?
Oui, beaucoup. Tu sais, déjà que c'est ponctuel, on peut le dire comme ça. C'est quelques semaines par mois où on y va. Alors, la COVID est venue, évidemment, nous mettre au sol, disons-le comme ça. On n'a pas pu voyager depuis le mois de mars 2020. Et là, les voyages reprennent petit à petit, maintenant qu'on sait que les nations auraient reçu leur deuxième dose. Moi, j'attends toujours ma deuxième. Une fois que je l'aurai reçue, là, je vais reprendre 100%, disons, le service. Mais même dans le nord, entre communautés, par exemple, Uvernuto, qui est un village un peu plus au nord, vers Coudjouac, mais ils n'ont pas encore d'autorisation de voyager, par exemple, sans faire de quarantaine. Donc, les gens souvent restent dans leur village actuellement. Il faut savoir que Coudjouac dessert d'autres villages, donc George River, Pouvernitouk, etc. Souvent, des gens vont descendre à Coudjouac et leurs dossiers sont traités dans ce district-là judiciaire en utilisant notre jargon à nous. Donc, c'est sûr que la COVID a été un énorme défi au niveau du contact avec nos clients en raison de la mauvaise connexion Internet aussi qu'il y a dans le Nord, là, faut le mentionner. Et depuis le début de la crise, toutes les lignes Internet ont été octroyées vraiment pour le système de santé. Donc, même nous, à distance, les premières journées de pandémie, parfois, on procédait par téléphone. Alors, c'était vraiment, oui, c'était quelque chose. Disons que ça a eu un gros impact, tant avec le contact humain, tant dans le développement, je pense, et cette construction de confiance avec ces communautés-là. Je pense que c'est venu nous donner une espèce de coupure, peut-être, qu'on doit rattraper là, le plus rapidement possible, mais évidemment en respectant là, les règles sanitaires, on ne voudrait pas au grand jamais qu'on les infecte par exemple de ce virus-là, parce que c'est comme nous aussi qui habitent très près l'un de l'autre et parfois 10-15 personnes dans une même maison. Là. Donc, on ne veut pas que ça arrive là-bas.
Ouais. Ben non, c'est ça. Il y a des risques, ça, c'est certain. De moins en moins peut-être, mais il y en a.
Oui, c'est ça. Définitivement de moins en moins, mais il y en a quand même. Puis on reste très, très prudents, là, justement. Toutes les salles communes sont fermées. On porte le masque tout le temps et avec le nombre de personnes permises en salle. Pour le dire, c'est une petite, petite salle à Coudjouac. Mais on y arrive.
Ça fait combien d'années que vous faites ça, Nada?
Ça va être ma deuxième année. J'ai la chance de pratiquer dans le Nord depuis maintenant 2 ans. Puis c'est une expérience qui, par la force des choses, là, je me suis retrouvée à avoir des dossiers dans le Nord. J'ai accepté, disons, le défi parce que quand on commence dans cette pratique-là, il faut avoir, je pense, une ouverture d'esprit, être capable aussi de bien communiquer, mais être à l'écoute de ces gens-là. Surtout, il faut en tenir compte de leur histoire, leur trauma et qu'ils vivent actuellement. Donc, tout ce que la commission est venue décrire, tout ce qu'on voit en ce moment avec la Salle Inchaquan aussi, tout ce qu'on voit ressortir, ben ça, c'est des choses auxquelles j'ai toujours été très, très, très attentive et je portais beaucoup une attention là-dessus. Mais si je peux vous donner une anecdote pour vous donner à quel point je me retrouve dans une position qui est particulière. C'est-à-dire que je vais dans le Nord où je vais représenter des gens, des êtres humains, où est-ce qu'on va parler de famille, d'intérêt de l'enfant, parfois de problématiques dans la famille, de trauma, de suivi. Donc, c'est très délicat. C'est des sujets qui peuvent être même très émotionnels. Mm-hmm. Donc, ça, c'est le premier défi. Des gens en DPJ, que ce soit dans le Nord ou dans le Sud ou partout au Québec, ce sont des dossiers de ce type de matière-là. Et il faut être capable de pouvoir les lire, en prendre connaissance, évidemment, et voir qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant ensuite. Et en fonction de mon client, savoir quelles sont les prochaines étapes. Est-ce qu'on nécessite de la thérapie? Est-ce qu'on a besoin d'aide externe? Est-ce que l'enfant a besoin de médication? Etc., etc., etc. Mais dans le Nord, s'ajoute la couche culturelle qui est importante. Et le défi, et je vous dirais là, mon premier voyage, petite anecdote, quand je suis arrivée là-bas, faut le dire, on s'exprime en anglais. Et leur langue principale maternelle, c'est l'Inuktitut. Donc, on a toujours des traducteurs, normalement, qui sont présents avec nous en salle de cours pour leur permettre, évidemment, de bien comprendre ce qui se passe et de bien s'exprimer également quand ils témoignent. Ouais. Et ça, c'est offert partout au Québec en passant. Peu importe la langue qu'on parle, russe, chinois ou arabe, on a accès à ça et c'est votre droit là, de le demander. Mais il faut savoir qu'on est au Québec où notre langue, normalement, qu'on veut et qu'on défend principalement est le français, seconde langue anglais. On se retrouve dans le Nord, qui est la même province, le même pays, et dans un système complètement inversé où là, l'anglais prime, et l'Inuktitut qui est la deuxième langue, mais qui reste quand même parlée au niveau d'une certaine génération. Malheureusement, c'est en train de se perdre comme langue, mais la Cour en fait un point d'honneur de vraiment l'offrir et leur donner cette possibilité-là. Au-delà de ça, il faut savoir aussi que les communautés inuites ne sont pas des communautés très revendicatrices, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes, culturellement, ils ont leur propre façon de gérer ces problèmes-là. Et souvent, leur façon de voir les choses, tout est une question d'équilibre.
Oui.
Si quelqu'un, par exemple, pose un geste négatif, alors l'exil, par exemple, ou lui demander de réaliser certaines tâches ou d'aider la famille, exemple, à construire leur nouvelle maison, ben ce sera ça, sa sentence dans les circonstances pour X, Y raison. Alors souvent, c'est des discussions qui se passaient comme ça. Maintenant, nous, on arrive avec nos lois, faut le dire, avec notre langue, pour le dire, avec notre façon de voir les choses, puis on plaide ça devant eux, on est là pendant une semaine, puis on quitte. Donc, c'est sûr que pour eux, il y a toujours cet effet-là d'éphémère et de l'individu blanc qui vient, qui traite de ces choses et qui quitte, littéralement. Et moi-même, vous savez, je pense que vous m'avez déjà vu un peu sur les réseaux sociaux, en tout cas, quelque part sur Internet, j'ai la peau quand même basanée. Et quand je suis arrivée là-bas, on m'a traitée de « white lady ». Et on m'a demandé de retourner où j'étais parce qu'on était des voleurs d'enfants. Alors, ça m'a tellement choquée, vraiment, que j'en ai eu une discussion avec ma collègue qui était là, qui avait plus d'expérience que moi.
Okay.
Et j'ai pris le temps de parler avec la personne qui m'avait dit ça parce que je voulais l'entendre, comprendre ce qu'elle voulait dire par là, mais je voulais aussi qu'elle comprenne notre travail, notre rôle, mon but. En venant ici, ce n'est pas de vous enlever vos enfants, mais malheureusement, et on l'a vu d'ailleurs dans le dernier rapport qui a été fait, par rapport aux communautés autochtones, là, en lien avec les centres d'aide. Les Autochtones ont peur, même à la naissance de leur enfant, de se le faire enlever. C'est fou!
Encore maintenant.
On en est là, encore maintenant, puis ça, c'est quand même un fardeau. Puis c'est fou, là, tu dis, t'es enceinte, peu importe tes conditions, tes circonstances, tu veux dire, tu as le droit d'être maman, et on est là pour t'offrir le meilleur environnement pour toi et ton enfant. Donc, la DPJ peut entrer, mais c'est ça le problème, c'est que l'image de la DPJ, à mon avis, est mal définie, mal représentée, encore moins au niveau des communautés, que ce soit dans le sud ou dans le nord, de leur approche. Les gens ont l'impression que quand la DPJ vient dans leur vie pour leur enlever leur enfant, alors que normalement, leur but et leur rôle, c'est de s'assurer que cet enfant-là se développe bien, dans les meilleures circonstances et idéalement avec ses parents biologiques. Donc, bref, on est dans ce type de défi-là. Puis,
oui, on sent que ça vous passionne, Nada.
Ah, mais il faut, ouais. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient capables d'être assez ouverts ou d'être à l'écoute, mais aussi capables d'exprimer les choses pour eux et surtout de poser les bonnes questions. Par exemple, quand j'ai des jeunes, je représente des jeunes Inuits, souvent très gênés, ne vont pas parler fort, je vais poser des questions, ce sera des réponses très courtes. C'est comme ça qu'ils sont, c'est comme ça qu'ils sont entre eux. Donc, ils ne sont pas du genre à crier ou à crier trop, « Ah, j'ai rien fait ». Exactement, ce n'est pas dans leur nature. Donc, il faut aussi apprendre à travailler avec ça, mais aller chercher les informations dont j'ai besoin comme avocate pour bien faire mon travail, mais encore plus dans l'intérêt de ces enfants-là et aussi de ces communautés-là, qui comprennent qu'on n'est pas là contre eux. Bien au contraire, on essaie d'aider. Mais à suivre, j'ai hâte de voir arriver au niveau des développements, surtout l'évolution de leur façon à eux d'appliquer nos lois. Ils sont en train de voir peut-être à ce qu'il y ait des comités constitués de membres inuits qui vont prendre ce type de décision-là. Mais à suivre, voyons comment ils vont se développer.
Tout un défi, en tout cas. Merci d'en témoigner, Nada. Mais finalement, merci. Ça a pris tout le temps de notre chronique. On se parlera d'autres sujets la prochaine fois. Merci infiniment.
Bien sûr. Merci beaucoup. À la prochaine.
Je rappelle que Nada Boumefta est avocate en droit criminel, droit de l'enfance aussi. Puis on la joignait à Kudjouak.